Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode coup de cœur. On va vous parler aujourd'hui d'un livre qu'on a beaucoup aimé toutes les deux, qui s'appelle « Des paillettes sur le compost », qui est écrit par Myriam Bahafou. C'est un bouquin qui est sorti fin 2022 aux éditions Le Passager Clandestin. Et alors, c'est le premier ouvrage de Myriam Bahafou, et pour vous présenter rapidement l'autrice. Myriam a 26 ans, c'est une chercheuse de philosophie, elle est aussi militante féministe et dans ses sujets d'intérêt, on va dire, il y a notamment les liens interespèces, alors dans une perspective écoféministe et décoloniale, et elle a une approche qui est intersectionnelle en fait quand elle aborde les enjeux de justice climatique. Donc ça, c'est assez intéressant pour les thématiques qui nous intéressent, nous, également. Et pour info, elle a écrit, en fait, un mémoire sur le véganisme. Donc, c'est un sujet qui lui parle beaucoup. Et elle a actuellement une thèse qui est en cours de rédaction, de production, qui concerne, là, l'écoféminisme autochtone au Canada. Elle a également rédigé la préface de la réédition du livre de Françoise Dobone, Le féminisme ou la mort, qui est assez connue et plutôt une référence aussi quand on parle d'écoféminisme. Donc voilà, donc là c'est son premier ouvrage, mais elle a déjà écrit d'autres choses.
Oui, elle a aussi écrit des articles de recherche sur différentes thématiques là que tu viens d'exposer. Et pour compléter, elle est à l'origine avec d'autres, hein, j'imagine, d'un collectif qui s'appelle Voix des Terres, qui a un site internet qui est vraiment fourni. Je vous invite à y aller parce que c'est hyper intéressant. Je l'ai découvert tardivement. Il y a plein de ressources, des podcasts, des documentaires, des livres. Et ils proposent aussi des ateliers d'écriture, des projections. Je pense qu'elles sont basées à Paris ou en tout cas en Île-de-France. Il y a un annuaire militant sur le site et elle parle également d'un festival près de Dijon fin juillet qui est porté notamment par la Sève, qui est un autre collectif écoféministe.
Ouais, c'est vrai que le collectif et le site internet de Voix des Terres, j'ai découvert récemment aussi et je me suis dit mais enfin. C'est vrai que c'est une ressource vraiment intéressante.
Ouais, complètement.
Bon alors, maintenant, si on rentre dans l'ouvrage, pour résumer un petit peu le bouquin. Donc, dans ce livre, on parle d'écoféminisme, mais d'écoféminisme au pluriel. Myriam Bahafou, elle aime bien parler des écoféminismes plutôt que de l'écoféminisme au singulier, parce que pour elle, c'est plusieurs mouvements, en fait. Les écoféminismes sont pluriels, ils sont mouvants. Voilà, c'est pas un mouvement unifié ni un programme politique, voilà, c'est pas aussi lisse que ça. Et elle a une approche qui est quand même assez radicale à partir de choses banales du quotidien. Voilà, elle va avoir une analyse et un questionnement assez radical et parler des écoféminismes. Elle part de son vécu à chaque fois, donc de son quotidien, de choses qui peuvent paraître un peu triviales. Et puis en fait, à partir de là, on découvre tout un monde et toute une autre façon de regarder le monde. Voilà, donc elle va tout au long du livre, en fait, aborder pas mal de thématiques et elle va questionner notamment la récupération blanche, bourgeoise, intellectuelle de l'écoféminisme. C'est ce qu'on constate un petit peu en France notamment. Elle questionne aussi nos rapports aux animaux, alors que ce soit dans l'assiette ou dans les rapports de domination qu'on peut avoir avec eux. Elle questionne aussi le care, les métiers du soin, de l'esthétique. Elle questionne le sexe, notre rapport au corps, à l'animalité, la spiritualité. Enfin voilà, elle aborde énormément de choses. Tout ce qui va toucher en fait à nos vies de manière générale ou au vivant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est elle le dit clairement que l'objectif du livre en fait c'est de réinjecter le mot écoféminisme au pluriel du coup dans des situations du quotidien et d'apporter en fait donc cette fameuse analyse radicale qui est vraiment très concrète. Donc en opposition avec le côté très intellectuel qu'on peut constater aujourd'hui, et l'idée c'est vraiment de donner corps en fait à l'écoféminisme pour que ça soit vraiment concret, réel, que ça puisse s'ancrer dans nos corps, dans notre chair. Voilà, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Elle va du côté du sensible, des émotions, du spirituel, en opposition avec le côté intello, politique, universitaire, bourgeois, rationnel. Enfin voilà, on sent vraiment qu'il y a cette opposition-là et cette séparation, en fait. Elle se détache vraiment de cet aspect-là, en fait, de l'écoféminisme qui est un peu une tendance, on va dire. Ça revient un peu à la mode, mais peut-être pas correctement.
Ouais. Bon, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle est quand même chercheuse et elle est habituée des écrits très universitaires, intellectuels, justement. Mais je pense qu'elle se positionne justement à contre-courant parce qu'on le découvre dans tout le livre. Mais elle fait des expériences très concrètes où elle vit, en fait, elle vit des choses. Elle est sur le terrain, elle milite. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'action. Et je trouve que c'est justement en ça où c'est intéressant, c'est qu'elle, Myriam Bafou, elle est vraiment à contre-courant de la pensée écoféministe aujourd'hui. Elle appelle à reprendre, donc il y a toute une partie, on le verra plus tard, mais sur reprendre le contrôle de nos corps, ce que tu disais, pour elle, la sexualité, la sensualité, c'est politique, en fait. Tout ça, c'est très lié. D'ailleurs, elle a inventé d'ailleurs le terme héropolitique en expliquant que c'est pas de l'érotisme au sens où l'érotisme, on parle d'une seule chose, que c'est assez réducteur, mais qu'elle ramène ce terme dans une sphère publique où en fait la sensualité, les corps, le sexe sont au cœur de l'action militante. Pour elle, en fait, on peut pas décorréler notre corps et ce qu'on en fait de l'action militante, qui est de vouloir penser différemment à un mieux vivre ensemble. Dans son livre, justement, pour parler rapidement de ça, ce qui est pratique pour les lecteurs, lectrices qui découvrent le concept ou qui veulent le lire, mais qui ne veulent pas d'un essai trop intellectuel, déjà, bah, ça ne l'est pas. Dans sa façon dont elle écrit, il y a pas mal de scènes qui sont romancées, en fait, où elle décrit, elle, des situations qu'elle a vécues, mais qui sont très voilà, qui sont un peu écrites à la façon d'un roman. C'est découpé en plusieurs morceaux, je crois qu'il y a 10 chapitres en incluant l'intro, et en fait à chaque chapitre, donc c'est une thématique par chapitre, donc c'est bien défini et il n'y a pas de lien entre eux, et à chaque chapitre il y a à la fin une petite partie qui s'appelle Dans mes bagages, où il y a des ressources à écouter, à lire, à voir, donc des podcasts, etc. Ce qui est assez intelligent, parce que du coup, elle s'appuie sur toutes ces ressources-là pour enrichir à elle son idée, son fil de ses pensées. Mais en même temps, elle va donner quand même pas mal de toutes les ressources, en fait, et toute la bibliographie et plus pour nous permettre d'aller plus loin si on a envie. Et surtout, comme moi je l'ai fait là en préparant l'épisode, de revenir en fait dans le bouquin. Tu vois, j'y suis revenue avec plaisir et je me suis dit « Ah, mais ça, je ne me rappelais pas l'avoir lu ou je ne l'avais pas retenu. » Et en fait, ça m'a amenée à vouloir découvrir d'autres choses, d'autres thématiques. Enfin, je trouve que c'est un livre dans lequel on pioche et on a envie de revenir, en fait.
Oui, c'est vrai que la structure, elle est intéressante et je trouve que c'est, comme tu dis, facile d'y retourner parce qu'en fait, on va dans le chapitre qui nous intéresse, qui nous a interpellés et on a tout de suite les ressources là. C'est un peu plus agréable, un peu plus sympa que d'aller à la toute fin du bouquin avec toute la bibliographie, etc., les ressources. Et c'est vrai que c'est chouette.
Ouais, et puis souvent, on parle de livres quand on parle de bibliographie, tu vois, ou d'articles, de trucs écrits, etc. Donc, tu dis bon, ok. Alors que là, elle donne énormément de podcasts, de ressources, de documentaires, de films à voir, actuels et anciens. Enfin, je trouve que c'est hyper vaste. Et sur ça, ouais, je trouve que c'est assez brillant, en fait, de l'avoir pensé comme ça.
Oui, et alors, du coup, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans ce bouquin. Donc, plusieurs chapitres, plusieurs thématiques. Il y a même si les chapitres ne sont pas liés, il y a des choses qui font écho, forcément. Et moi, il y avait un sujet en particulier qui m'interpelle de manière générale et j'ai apprécié la façon dont elle abordait ce sujet-là avec sa vision des choses et la radicalité qu'elle porte, mais c'est tout ce qui tourne autour des métiers du care et du bien-être. Bon, elle aborde des choses qui sont pas nouvelles et dont on a connaissance déjà, hein, c'est que la pauvreté est quand même très féminine, malheureusement, et les métiers qui sont précaires et dévalorisés sont aussi beaucoup occupés par des femmes, alors qu'ils sont importants, hein, c'est les fameux métiers essentiels dont on a beaucoup entendu parler depuis 2020, même si la situation des personnes qui occupent ces métiers-là n'a pas trop évolué. Voilà, donc c'est les fameux métiers du care, bon, aussi les ouvrières, les paysannes, tous ces métiers-là, en fait, qui sont les forces surexploitées du capitalisme, c'est comme ça qu'elle en parle. Et ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, dans son approche, c'est qu'elle parle d'une arnaque, en fait, l'arnaque de l'intégration, en fait, ces minorités-là dans l'économie, sur ces métiers-là, donc métier du care, du soin, et voilà, ce type de métier, parce qu'en fait, c'est pas vraiment être salarié dans ces métiers-là, en Occident, c'est pas une libération du tout, mais c'est plutôt, en fait, une autre forme de dépendance et de soumission, en fait. Il y a quand même une hiérarchie de classe, de race, voilà, entre femmes aussi, parce que du coup, les femmes blanches riches qui peuvent se payer ces services-là, finalement, oppressent quelque part et dominent ces femmes-là qui exercent ces métiers qui sont pourtant si importants, en fait. Voilà, et ça me faisait penser aussi au métier du bien-être dont elle parle et de l'esthétisme, qui sont aussi des métiers qui sont dévalorisés. Et du coup, il y a un chapitre qui parle un peu de ça, avec une anecdote marrante. Mais c'est des métiers qui sont dévalorisés. Les personnes qui les exercent aussi sont dévalorisées, alors que c'est là aussi des métiers importants qui demandent, en fait, quand même des compétences, hein, des savoir-faire. Et puis, dans certaines cultures, il y a un sujet de transmission de savoir, de transition, qui sont quand même importante, et c'est vrai que c'est aussi des lieux de non-mixité, des lieux où on peut des fois se parler entre femmes, franchement, et c'est des lieux qui sont importants, en fait, avec des personnes qui sont importantes, même si c'est une partie des métiers du soin qui est souvent critiquée et décriée par beaucoup de féministes, parce que ça reste une industrie qui est patriarcale, coloniale, capitaliste. Voilà, il y en a plein qui se font de l'argent sur nos complexes. et puis du coup, voilà, nous, on est en tant que femmes, on est soumises à des injonctions importantes, voilà, qui nous poussent à aller nous faire épiler, à s'habiller d'une certaine façon, à se maquiller, etc. Et du coup, voilà, tout ça, c'est beaucoup, à juste titre, hein, sur certains aspects, décrié et critiqué par les féministes. Mais en même temps, c'est dommage de dévaloriser des métiers qui sont quand même importants et qui sont liés au bien-être et puis à ces espaces précieux où on est, voilà, sans hommes, quelque part. Et puis, voilà.
Ouais, c'est vraiment c'est la séance, donc la fameuse séance chez l'esthéticienne, qui est, je crois, le premier chapitre où elle évoque, en fait, une tranche de vie, où elle se révèle aussi, hein, où elle dit, elle, clairement, qu'elle va chez l'esthéticienne à Saint-Denis, dans des endroits où elle connaît, où il y a plusieurs maghrébines, ou en tout cas, il y a plusieurs femmes racisées qui vont dans ces endroits-là. Et effectivement, comme tu disais, ça crée un espace de parole un peu sacré, parce qu'elles se racontent leurs doutes, les violences qu'elles subissent, leurs complexes, leurs victoires. Enfin, elles partagent tout un tas de choses. Et du coup, c'est vraiment ce qu'elle dit, c'est qu'on recrée, en fait, un espace hyper précieux d'une une parole en fait qui n'existe plus, parce qu'au sein de la maison, de la maisonnée, cette parole n'a pas lieu d'être, tout en ayant les jambes écartées, en train de se faire épiler. Et du coup, c'est vrai que ça, et tout en répondant, comme tu dis, aux injonctions de la société. Donc, ça amène des situations qui sont assez cocasses, voire contradictoires. Mais moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce chapitre, c'est vraiment où elle dit, on est plein de contradictions, mais c'est OK, en fait. C'est pas parce que t'es féministe et écoféministe que tu ne dois pas aller chez l'esthéticienne tous les mois ou ne pas te mettre du rouge aux ongles, etc. Donc il y a, je trouve que c'est un côté où elle déculpabilise en fait les femmes sur ces contradictions qui peuvent naître parfois où on se dit oh là là, ah mais non, mais en fait il faut que je sois plus nature ou plus ceci ou plus cela. Où ça fait du bien de lire ça, en fait, de lire, c'est OK, quoi.
Ouais, carrément. Et puis, moi, ça m'a parlé aussi parce que pendant un temps, entre mon engagement féministe et mon engagement écolo, j'ai vraiment eu du mal à me dire, je peux continuer à prendre soin de moi, je peux continuer à avoir envie de me saper, ouais, à être féminine, voilà. Et du coup, ça c'est terrible parce qu'en fait, en voulant se libérer de certaines injonctions, on s'en crée d'autres en fait. Pour être la bonne féministe, la bonne personne écolo ou la bonne écoféministe. Et du coup, c'est intéressant parce que elle, en valorisant ces métiers-là et toutes ces personnes qui exercent ces métiers du bien-être, du soin, du care, de l'esthétisme, de l'esthétique, et ben, on se dit en fait c'est des personnes qui sont importantes, qui nous font du bien et on a besoin de ça.
On a besoin de ces personnes et on a besoin de ces espaces aussi pour reprendre un peu le pouvoir sur
Exactement.
Son corps.
Exactement. Ah bah oui, quand elle parle de féminité et elle justement elle utilise avec joie et de manière ostentatoire tous les attributs de la féminité parce que c'est une façon pour elle de reprendre le pouvoir sur son corps, et de jouer finalement avec les injonctions avec lesquelles on doit composer au quotidien, quoi. Donc c'est assez intéressant aussi. J'aime bien ce côté retourner un peu le truc, tu vois, à son avantage. Ouais. Dans sa radicalité, c'est parfois ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et ça donne des perspectives, des façons de faire différentes, et puis ça revalorise aussi des personnes et parfois des métiers du coup qui sont critiqués au regard d'une soi-disant pureté morale ou féministe ou écolo qu'il faudrait avoir, qui n'existe pas et qui est peut-être pas souhaitable d'ailleurs. Et c'est surtout, comme elle le dit dans le bouquin, assez bourgeois et occidental quelque part de critiquer en fait certaines pratiques, certains métiers, certaines façons de consommer. Donc c'est en ça que son approche elle est vraiment intéressante, elle est nouvelle, elle est, je trouve, fraîche. Et d'ailleurs, en parlant de façon de consommer qui peut être vue comme occidentale et un peu bourgeoise et décorrélée de problématiques concrètes, il y a le sujet du véganisme qui est abordé puisque c'est un de ses sujets de prédilection, et j'ai trouvé là encore une fois son approche assez intéressante parce que des fois on se rend pas compte que quand on consomme, quand on se dit végane par exemple, c'est beaucoup lié à l'angle de la consommation et de l'éthique, mais on oublie de regarder de creuser d'autres thématiques qui sont quand même assez importantes et notamment tout ce qui est l'importation des produits coloniaux qu'on consomme pour remplacer la protéine animale, les conditions paysannes, l'agroécologie, l'autonomie alimentaire aussi, et puis l'exploitation du coup des personnes qui travaillent en fait et qui produisent ce qu'on va consommer. Et voilà, il y a tout un système alimentaire mondial, capitaliste et colonial à repenser, et la façon dont elle l'aborde est assez intéressante, ce qui fait écho avec la capacité de l'être humain à hiérarchiser le vivant en fait, donc les humains entre eux et puis les animaux, toutes les espèces en fait, qui sont classées, hiérarchisées, avec certaines qui sont mieux que d'autres. Et puis nous, évidemment, être humain, enfin, être humain, homme blanc, cis, valide, en haut de la chaîne, quoi. Donc, c'est un sujet qui est assez intéressant aussi, qui est abordé dans le bouquin que j'ai envie de creuser, notamment quand elle aborde le sujet de l'humanisme. En fait, c'est cette façon, finalement, dont on classe et on hiérarchise le vivant. Donc, moi, ça m'a donné envie de creuser cette thématique. Et la lecture de ce bouquin m'a donné envie aussi de creuser une autre thématique que vraiment là je découvrais et vraiment j'y connais rien mais ça m'a intéressée, c'est le sujet des travailleurs et travailleuses du sexe, qui est assez intéressant parce que ça peut, enfin ce qu'elle évoque elle, c'est que ça peut permettre de reprendre le pouvoir sur nos corps et d'une certaine façon ça peut permettre aussi pour certaines personnes de redéfinir un peu la sphère du travail, la façon dont elles travaillent et parfois de se sortir même de la précarité parce que il y a des personnes qui sont pour tout un tas de raisons exclues en fait du monde du travail car considérées inadaptées on va dire pour ce merveilleux système capitaliste et productiviste dans lequel on vit donc voilà, moi, il y a tous ces sujets-là que ça m'a donné envie d'aller plus loin à partir des ressources qu'elle partage notamment.
Une des thématiques qu'elle aborde, enfin un des chapitres qu'elle aborde et qui m'a donné envie de creuser et de réitérer surtout, c'est le chapitre où elle parle dans son expérience en terre lesbienne, où en fait c'est dans cet endroit où elle part pendant une semaine tous les étés. Ou en tout cas plusieurs étés d'affilée où elle va retrouver des personnes qui en fait construisent une nouvelle façon de vivre, de façon de consommer sur place. Alors je crois que certaines travaillent et vivent vraiment sur place et d'autres doivent venir par intermittence, en vacances comme ça, qui est un espace vraiment où on reprend le contrôle sur son temps, sur soi, on a un laisser-aller, ça permet de laisser-aller dans un groupe vraiment bienveillant, entre femmes, parce que là, on parle de terre lesbienne, et comment, en fait, ce terreau est vraiment nécessaire pour réinventer une nouvelle façon de vivre ensemble. Pour moi, clairement, ça m'a fait penser à un petit moment, je terminerai là-dessus, mais du coup, à un moment qu'on a partagé ensemble, Hélène, d'ailleurs, avec d'autres personnes qui... il y a 2 ans, on est parti en, on peut dire, une retraite, hein, une retraite écoféministe. Il s'appelait alors le G8, donc c'était une semaine avec 8 femmes d'horizons assez divers, une semaine où en fait on a appris des unes des autres en partageant des ateliers, des savoir-faire, des savoir-être. Il y a eu aussi des cercles de parole, des débats, des grandes émotions fortes. C'était une semaine vraiment hors du temps, à part. Et ça, son paragraphe, enfin son chapitre m'a beaucoup fait écho à ce temps qu'on a passé ensemble, qui est pour moi, qui a été énormément précieux, qui m'a tantôt bouleversée, émue, challengée, qui m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort aussi. Et je trouve, comme elle le dit aussi si justement, que ces espaces-là devraient être vécu une fois ou plusieurs fois par toute femme, parce que c'est des espèces qui sont vraiment sacrées, dans lesquelles on apprend beaucoup sur soi et sur les autres. Et voilà, c'est des super expériences. Donc, je trouve que c'est une expérience qui serait à réitérer pour ma part et que j'encourage toute personne, toute femme à organiser aussi.
Et je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que c'est un moment précieux, important, et voilà, je confirme que c'est chouette et qu'il faut arriver à vivre ça.
Ouais, donc organiser des espaces et des semaines écoféministes avec dans vos bagages des paillettes sur le compost.
Exactement.